Mardi le 3 novembre 2020, édition spéciale du l'heure du lunch, de En Zone Neutre, version internationale. Yes! Branchez-vous, prenez votre sandwich. Bienvenue à tout le monde sur Facebook, sur YouTube, connectez-vous. Eh oui, je suis là. On va se débarrasser de la musique. Hein? C'est un fla-fla qu'on n'a pas besoin. La musique. On est le 3 novembre. Merci d'être là, ceux qui sont là. On fait un test ce midi. On va essayer ça. Édition du lunch de En Zone Neutre. On est là ce soir quand même à 19h30. Je rappelle mes invités. Annie Pelletier, médaillée olympique, qui va être avec nous autres au début du show. Ça va être vraiment cool d'y parler. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment, vraiment sport d'accepter de me. On se connaît pas, là. Donc, c'est vraiment nice qu'elle ait décidé de me donner une entrevue comme ça. Fait qu'on va parler un petit peu de sa carrière, puis qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, etc. Vraiment cool, j'ai hâte de la recevoir. On va recevoir aussi le Diable à 5, groupe québécois de la région de l'Outaouais, de la région de la Petite Nation, qui ont gagné, qui sont récipiendaires du prix Ma Première Nomination à la Disque la semaine passée. Donc, ils vont nous parler un petit peu c'est quoi ce prix-là, qu'est-ce que ça implique, puis c'est quoi le feeling d'avoir la statuette du gala de la Disque chez eux. Donc, j'ai bien hâte de leur parler à soir de ça. On va recevoir aussi Vincent Ouellet des Trois Maisons, auteur du livre À guichet fermé. Donc, j'ai bien hâte de lui parler de son livre aussi. Et on va recevoir aussi des amis humoristes qui ont participé à le prochain stand-up sur Nouveau. Donc, aujourd'hui, ce midi, on est le 3 novembre. Le 3 novembre, c'est quoi aujourd'hui? C'est, entre autres, la journée des élections aux États-Unis. Donc, depuis le début de la journée, ça vote en grand nombre là-bas. Va-t-il y avoir un nouveau président? Ça va être bon de suivre ça ce soir. On va pouvoir en discuter un petit peu dans le show de ce soir. Au Québec, on a eu la première neige officielle, je dirais, quelques centimètres, donc un beau tapis blanc ce matin, et moi je me suis fait reprendre par mon propre frère qui m'a dit on parle pas de neige là. Tu sais, le monde, ils ont des fenêtres chez eux, puis ils sont capables de regarder dehors, effectivement, donc on parlera pas de neige tant que ça. Mais en tout cas, il y a eu la première neige. C'est la fête à mon papa aujourd'hui, donc j'en profite pour lui souhaiter officiellement bonne fête sur le podcast. Mon père qui a encore une cassette dans son auto, donc c'est clair qu'il écoutera pas mon podcast de toute façon. Je vais lui souhaiter en personne, donc je vais lui souhaiter sur le podcast. J'ai souhaité sur Facebook, il n'y a pas de page Facebook, c'est ça. Hein, je vais lui dire en personne, ça va être mieux comme ça. Connectez-vous, parlez-en, participez, vous pouvez commenter dans les commentaires. Il y a déjà des commentaires qui sont rentrés. Pat Guillotte qui dit coucou. Pat Guillotte qui est un excellent humoriste de la région ici, en Outaouais aussi. Mon frère qui dit Make America Great Again. Je pense pas que c'est ce que le monde au Canada veut, fait qu'en tout cas. Mais sans plus tarder, on va aller jaser avec mon chum, un gars. J'ai dit que c'était un show international à midi parce que je reçois un ami, puis vous allez comprendre pourquoi qu'il y a un show à midi. Parce qu'on a 6 heures de décalage horaire, en fait, ensemble. C'est un ami d'enfance. On est allé à l'école ensemble, puis c'est un gars créatif, c'est un gars que j'aimais beaucoup dans le temps, puis que j'aime encore beaucoup. C'est juste qu'on se parle pas mal moins souvent, vu la distance qui nous sépare. C'est un gars qui fait des choses, qui est parti en Europe, puis qui a fait des choses vraiment cool là-bas, puis on va en parler avec lui. Mais après ma barre, moi, dès qu'on a commencé à se côtoyer au secondaire, je savais que c'était un gars hyper créatif, puis on va en parler un petit peu avec lui, mais c'est même grâce à lui que je me suis fait élire comme président de l'école à Saint-André-Avelin dans le temps, avec ses idées. Donc, on l'amène tout de suite, je vous le présente. C'est un gars de Saint-André-Avelin, mais qui habite maintenant pas à Paris, mais en France. Il va pouvoir nous dire exactement où. Mais je l'amène avec moi, Jonathan Corrigan. Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va super bien. On va reconnaître un petit peu l'accent français tout au long du show. Pas un accent que je te connaissais dans le temps, mais tu t'es découvert ça. qui prend Marie prend pays. Là. Il y a une expression qui dit ça, genre.
Oui, exact. Mais ça marche dans les deux sens. Avec une femme aussi. Mais ça va revenir peut-être. J'imagine qu'avec ton contact, l'accent va revenir. Je ne sais pas. Je le sens déjà, mais il me veut timide. Il arrive.
Tout,
me rappelle l'anecdote des élections. Je me rappelle tout ça. Mais oui, c'est vrai. Oui. J'étais trop auteur sur ta campagne électorale en secondaire 2.
Ouais, c'était cool. Non, c'est vrai. Puis on peut le raconter. Moi, pour me faire élire en secondaire 2, là, je me souvenais pas que c'était en secondaire 2, mais c'était en secondaire 2. Pour me faire élire, Joe avait eu la bonne idée que pendant mon discours à la nation, qui était les élèves de l'école, j'allais sortir une fausse lettre d'amour de mes poches et que j'allais commencer à lire ça en disant, oups, je me suis trompé, ce n'est pas mon speech, mais c'est une lettre d'amour qui était adressée à telle personne dans ce temps-là. Fait que, c'était tout un concept, c'était vraiment très, très créatif. Puis, ben, tu sais, c'est ça, on était des créatifs, puis on l'est encore. D'ailleurs, justement, on va en jaser avec toi, mais t'as construit, dans le fond, un jeu d'évasion, si on veut, de A à Z, là, si je comprends bien, parce qu'on est quand même à distance, puis j'ai pas tous les détails de ton évolution, mais parle-nous un peu comment t'es arrivé en France et puis comment t'as eu cette idée de créer ce jeu d'évasion-là.
Ben, c'est une super longue histoire, parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'en arriver au jeu d'évasion, mais disons, je sais pas si tu te rappelles, au Québec, j'avais au secondaire, je faisais du stand-up aussi, je faisais les shows, tout ça, je faisais de l'humour, j'écrivais mes numéros, tout ça, c'était cool. Et après, j'étais parti faire des études au cégep en art dramatique à Saint-Laurent, tu te rappelles? Peut-être toi d'ailleurs. Voilà, et de là, ben, pour payer mes études, je travaillais chez Ronald Entrepôt, Saint-Laurent, au service à la clientèle.
Moi, j'aime les références québécoises avec l'accent français, je capote.
Le Ronald Entrepôt. Pour ceux qui nous suivent en France, s'il y en a, le Ronald Entrepôt, c'est genre brico-marché, brico-dépôt hein, d'ici.
D'ailleurs, attends un petit peu, Joe, on va le dire. Ceux qui écoutent présentement, envoyez-nous un commentaire puis dites-nous de où est-ce que vous nous écoutez. Est-ce que vous nous écoutez du Québec ou vous nous écoutez de la France? Allez-y, donnez-nous un commentaire là-dessus. Ça va être vraiment cool de savoir de où l'auditoire vient.
Ouais, les Français, faites péter le chat.
Faites péter le chat.
ouais, donc, ben, après, j'ai eu l'opportunité à la fin de quand j'étais diplômé au Cégep. Quand j'ai eu mon DEC, j'ai eu l'opportunité de venir travailler en France pendant ton frère est là, en tout cas.
Oui, ouais, il est présent.
J'ai eu l'opportunité de venir travailler en France, justement, dans un magasin de bricolage qui était en partenariat avec Ronald Entrepôt. C'était Bricomarché, ici, en Bretagne. Et j'étais venu là quelques semaines, puis ça a duré un peu plus, puis j'ai rencontré ma femme, puis voilà, c'est devenu ma femme entre-temps, enfin, il s'est passé plein de trucs, on a fait des enfants et tout, on a même déjà fait l'amour, et on a maintenant 3 enfants, et tout le monde est merveilleux, tout le monde est heureux, et j'ai travaillé, je suis resté dans cette carrière-là du... Oh, il y a quelqu'un de Brest!
Ouais.
Je suis resté dans cette dynamique de travail dans le commerce. J'ai passé un peu plus de quasiment une douzaine d'années dans l'agroalimentaire. D'ailleurs, on avait travaillé au métro tous les deux en même temps. On met
trois. Ouais. Ouais, avant que je me rende compte que j'étais pourri pour travailler là. Hey, moi, je prenais des. Non, mais pour faire une parenthèse, moi, je prenais des pauses, puis j'achetais des gratteux, là, des loteries instantanées, là, puis je grattais ça sur le comptoir pendant que le monde y emballait leur stock. En tout cas, vraiment pourri.
J'essayais de réinvestir tes tips comme tu pouvais.
Ouais. Make Metro great again.
Et donc, après ça, ben, j'ai donc une douzaine d'années dans la grande distribution dans l'alimentation en France, à gérer des équipes, à gérer du stock, tout ça. Enfin, j'étais responsable de magasin. Et puis, il me manquait cet aspect créatif-là que j'avais complètement mis de côté pendant une douzaine d'années. C'est juste, j'étais arrivé en France, il fallait que j'aie le droit de travailler, il fallait que j'aie le droit de rester ici, donc il fallait que j'aie un travail. J'ai mis tout de côté la partie artistique, la partie art dramatique que j'avais étudiée pendant des années. Et l'objectif, c'était d'avoir le droit de rester ici, et puis de poursuivre ma vie avec ma femme, puis d'acheter une maison et de faire des enfants éventuellement. Et donc, j'ai travaillé. Je me suis beaucoup plu dans le travail que j'ai fait. Mais après quelques années, il me manquait toujours cet aspect création, jeu, entertainment. Et c'est là que j'ai découvert le concept de l'escape game. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Ouais, le Zoom nous est pas familier.
Le Zoom, on va oublier ça.
Et j'ai eu à ce moment-là, j'ai appris le concept. À peu près quand c'est arrivé en France, c'était quoi, en 2015? Je pense 2015, les escape games ont commencé à arriver en France en plus grand nombre. Ça m'a beaucoup plu. L'idée m'a plu. Et j'étais très curieux. Tant que j'y avais pas joué, j'étais vraiment curieux de voir ce que c'était. Alors, parce qu'en France, on dit des escape games parce qu'on aime bien les mots français.
Ouais, c'est ça.
Sinon, pour mes amis québécois, je voudrais pas me mettre tout mon ado. C'est un jeu d'évasion.
Ouais, c'est ça. Nous autres, c'est un jeu d'évasion, mais ça, c'est comme plusieurs affaires qui sont reprises en France en anglais. Comme, je me souviens d'avoir été en France puis d'avoir dit un stationnement puis personne ne savait de quoi je parlais. C'est un parking. Ah,
c'est un parking.
Ouais, c'est ça.
Ah, on aurait pu faire un test sur les différents mots. Ah, c'est bon, si on refait ça un jour.
On le refera, ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais là, Brest, c'est où exactement en France? Là, tu as parlé de Bretagne, donc c'est quoi? C'est au nord de la France? Ou?
À la Bretagne, c'est l'ouest.
Okay.
L'ouest de la France. Ben, c'est un peu le nord-ouest, mais ils divisent vraiment, ils disent le nord, c'est encore autre chose. Mais c'est l'ouest et c'est le nord-ouest. Ce qui fait que finalement, on a la mer juste à côté.
Okay.
Et je raconte souvent aux. Les gens qui me demandent pourquoi je suis arrivé là, tu regarderas sur une carte, mais si je suis arrivé là, j'explique que je suis arrivé à la nage et qu'après, je me suis arrêté là, je n'avais assez. J'avais assez nagé comme ça. Parce qu'on est, on est à côté de la ville la plus proche de New York, tu vois, de la ville française la plus proche de New York.
Wow!
À côté non plus.
La plus près de la Statue de la Liberté, vous êtes à côté, là, ouais. Tu sais, quelques kilomètres de différence.
Si le vent est favorable, puis qu'il n'y a pas trop de nuages, t'arrives à deviner l'ombre à peu près du temps.
D'ailleurs, la Statue de la Liberté qui est un cadeau de la France aux États-Unis, donc c'est, ouais, tout est dans tout. Hein?
Ben, exactement. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait Mario Cyr.
Oh, Mario Cyr qui peut-être nous écoute, on ne sait jamais.
Mario, c'était là.
Mario Cyr qui était un de nos profs à la polyvalente Louis-Joseph Papineau, qui habite à Ripon d'ailleurs, donc que je vois des fois. Mais puis d'ailleurs, je vois plein de profs qui nous ont enseigné que toi, tu n'as pas grand chance de rencontrer là, proche de chez vous. Mais là, c'est ça. Là, qu'est-ce que tu as créé? Dans le fond, tu as parti ça de zéro. Tu as décidé, j'ai le goût de me lancer là-dedans, je bâtis tout ça, je loue un local ou tu achètes un local, peu importe. Puis là, t'as dit, OK, je pars de rien, puis je crée ce que moi je veux comme pièce, là, puis comme jeu d'évasion. Comment tu pars, comment tu décides de faire ça là, un jour comme ça?
Ben, ça faisait quelques années que j'avais envie de m'émanciper et de devenir patron de mon affaire, mais je cherchais le bon concept. J'ai tourné pas mal en cuisine, je me disais ça pourrait être intéressant, mais en même temps, je suis pas vraiment cuisinier, donc j'aurais fait des erreurs. Et le jeu est revenu là-dessus. Et vraiment, quand j'ai appris l'existence du concept, j'étais curieux, je suis allé jouer, mais dès la première fois où je suis allé jouer en tant que joueur dans un escape game, je me suis dit en y allant, je veux voir ce que c'est, je veux voir si je peux l'améliorer. Et si c'est le cas, j'y vais. Et je me rappelle du soir où je suis allé jouer, j'ai passé une heure, c'était cool, je me suis bien amusé. Et, mais je me suis dit, c'est que ça, je suis sûr qu'on peut pousser le concept beaucoup plus loin. Et le lendemain, j'ai commencé à négocier mon départ d'entreprise pour qui je travaillais depuis 12 ans. Il a fallu quelques mois de mise en place, le temps de trouver un local, trouver les financements, trouver les idées, tout ça. Mais l'idée, c'était ça, c'était de créer une marque donc, qui s'appelle Mystery O'Clock, encore un nom français. D'ailleurs, je me sentais un peu mal en tant que Québécois de mettre un nom anglais. Je l'ai fait valider par mes plus proches amis au Québec avant. Je ne voulais pas qu'ils se sentent reniés.
Donc, mais en même temps, ils vont peut-être y aller juste une fois dans leur vie, de toute façon. Là.
Donc, ça, c'est pas eux, le public.
C'est accrochant pour les Français, tant mieux.
Oui, ça marche bien. Et donc, j'ai créé ça. Ça, tout ce que ça implique, trouver un local, trouver des artisans, trouver un financement. Au début, j'étais tout seul. J'étais tout seul à faire pas mal de choses, un peu guidé par ma famille, mes amis qui venaient m'aider à faire un petit coup de peinture, ce genre de truc. Et j'avais déjà opté, à l'époque, j'avais opté pour un local qui permettrait de recevoir quatre jeux d'évasion. Et c'était déjà ambitieux. Là, on était en 2016 à ce moment-là. Et à l'époque, en moyenne, les escape games en France avaient des fois trois salles. Et moi, je m'étais dit, moi, j'en aurais quatre. Et je m'annonçais comme étant, j'en aurais quatre, on sera big. Et je les ai développés. Puis rapidement, le succès a pris. Donc, ça m'a tenu occupé toutes les fins de semaine. J'ai failli dire week-end. Ça me tenait occupé tous les week-ends. Et j'ai engagé. Il a fallu que j'engage pour répondre. Ah, c'est cool ça, merci. Il a fallu que j'engage pour répondre à la demande. Et pour fêter les 2 ans de Mystery O'Clock, j'ai pris un deuxième local en location qui, lui, me permettait d'avoir jusqu'à 10 salles dedans. Donc, c'est à 300 mètres du premier. Donc, en prenant ce second local pour ouvrir jusqu'à 10 salles, je m'enlignais pour 14 salles Mystery O'Clock à Brest. Et ça, c'était il y a 2 ans que j'ai pris le deuxième local. Et depuis, on a ouvert 6 salles dans ce deuxième local, on a ouvert 6 salles, tout en conservant les 4 à l'autre adresse. Donc maintenant, on en a 10 à Brest. Et avec 4 en développement qui vont arriver l'année prochaine, normalement. Enfin, tout a pris un peu de retard avec la maladie dont on va parler.
Ouais. Mais on va en parler un petit peu parce que ça freine un petit peu ce que tu fais. La semaine dernière, si je me trompe pas, justement, c'est le président Macron qu'on dit ou le premier ministre? Non, c'est le président Macron.
Le président Macron.
Là, il a annoncé un confinement aussi en France, un petit peu plus sévère. Donc, toi, tu as dû fermer tes salles présentement pour une période de quoi? C'est 1 mois, je pense, ou 2 mois?
Là, on est parti pour officiellement 1 mois, mais on n'a aucune visibilité et le gouvernement non plus. De toute façon, ça va s'adapter. Donc, dans les semaines à venir, ils diront combien de temps ça durera effectivement. Mais ça a déjà duré 14 semaines une première fois en mars. Donc, de mi-mars jusqu'à fin juin, on est resté fermé. Tous les commerces, c'est pas vrai. Dans mon cas, en tout cas, on est resté fermé sur cette période. Il y a eu pas mal de commerces fermés, puis il y en a eu d'autres qui ont ouvert un peu plus tard. Mais nous, on a fait partie des premiers fermés et des derniers réouverts. Okay. Malgré qu'on n'était pas spécialement un lieu de transmission plus dangereux puis qu'on avait un protocole sanitaire. Enfin, je respecte la décision. Oh. Mais ça fait qu'on n'a pas travaillé pendant quasiment 4 mois. Là, on ne retravaille pas pendant au moins 1 mois. Ça va faire une petite année quand même.
Non, c'est sûr. Mais tu sais, je regardais ton site, puis c'est cool parce que tes salles sont tous très différentes les unes des autres. Tu sais, on a le truc de cowboy, de Stickanian, ça, je trouve ça cool au bout. Mais tu sais, t'as des salles vraiment différentes. Parle-nous-en un peu pour les Français qui nous écoutent, qui voudraient aller à ton quand ça va réouvrir, là, aller à ton escape game. C'est quoi la différence entre tes salles que tu as?
Tu as raison de le souligner parce que je suis vraiment content de la variété que j'ai réussi à mettre en place. Parce que tu l'as dit au début, je suis assez créatif, j'ai de l'imagination. Donc, je trouvais ça stimulant pour moi d'écrire des choses différentes. Mais en plus, j'essaie d'être un homme d'affaires avisé et je suis conscient qu'il y a toutes sortes de publics et qu'il faut apprendre à parler à chaque public différent. Mm-hmm. Là, par exemple, tu es sur la page d'une enquête policière qui est une enquête d'investigation. Les gens se retrouvent sur une scène de crime et ils doivent analyser la scène de crime pour trouver qui a pu tuer le père de famille. Et pour ça, ils doivent disculper plein de gens. Donc, c'est une enquête par déduction et par investigation. Tu dois dire, ça ne peut pas être cette personne parce qu'il y avait un alibi ferme. Il ne peut pas être là à cette date-là, à cette heure-là. Tu progresses, il y a des rebondissements. Ça, c'est une de nos plus anciennes salles. Bah, les deux que tu nous montres là, c'est parmi les plus anciennes salles. Okay. Ça, c'est vraiment très cérébral. La dernière enquête, c'est une enquête policière. Et à la base, au début, quand je l'ai écrit, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'escape game pensaient que... À l'époque, les gens pensaient que c'était soit des enquêtes, soit comme Fort Boyard, ou soit que ça se passait dans le noir. Enfin, c'est assez flou. Là, les gens commencent à connaître plus. Nous, depuis, on a eu 50 000 visiteurs en 4 ans. Donc,
50 000, wow!
Ils commencent à savoir, tu vois.
Ouais, cool.
L'entreprise a bien évolué maintenant avec 2 locaux, 10 salles. On est 8 employés, dont 6 à temps complet. Donc, on divertit la France. C'est ma mission. Je divertis la France.
C'est cool. Puis, tu sais, du côté, moi, étant humoriste, écrivant mes propres textes et tout, comment tu pars pour écrire une salle, par exemple, parce que, tu sais, c'est une histoire. Là. Il y a une histoire qui est racontée dans tout ça, autre que, tu sais, par exemple, trouver des indices et tout ça. Il y a une histoire qui est racontée. Tu pars comment? Tu pars de la fin en t'en allant vers, tu sais, l'entrée des concurrents ou vraiment, c'est une idée de départ puis après ça, ça peut aller dans tous les sens?
Ça dépend, tu vois, au départ, c'était moins recherché, c'était plutôt mettre des énigmes dans une salle, mais leur donner un thème commun qui fait que c'est plausible et que ça se tienne. Mais là, les scénarios, la qualité des scénarios a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et notamment sur les 2 dernières créations qui sont Bienvenue à Dusty Canyon ou 29 jours après. Où j'ai voulu pousser le détail le plus loin possible. Là, sur Bienvenue à Dusty Canyon, par exemple, je voulais, dans la variété, je trouvais que le thème Far West serait intéressant à traiter. Et moi, j'aime dire que je suis bon à rien, mais que je connais un peu de tout, tu vois. Et j'excelle dans rien, mais j'ai une culture générale à peu près correcte sur plusieurs sujets. Et il se trouve que moi, le Far West, ça m'évoquait Lucky Luke. Et donc, j'ai voulu le traiter comme dans une bande dessinée. C'est pour ça, l'affiche, là, c'est clairement, ça évoque bande dessinée. D'ailleurs, si tu regardes sur l'affiche, B et D en rouge, c'est pas anodin, tu vois. Mm-hmm. C'est un game design autour de la BD. La parenthèse s'arrête là. C'est-à-dire qu'une fois que l'inspiration vient, je copie pas Lucky Luke, je crée pas les personnages de Lucky Luke, tout ça. Il y a personne qui s'appelle Lucky Luke. Il y a pas les Dalton. Le shérif, le petit nabo un peu imbu de lui-même qui triche et tout ça, le shérif de Dusty Canyon, il s'appelle Billy Red Angus, tu vois, ça a rien à voir avec Lucky Luke. Et là, sur ce scénario-là précisément, je suis parti de la fin. Je suis parti de la fin, toujours en clin d'œil à Lucky Luke. J'en ai lu un dans ma vie, un Lucky Luke, et j'en ai peut-être vu 2 à... Comment ça s'appelait? Ciné-Cadeau?
Ciné-Cadeau, ça existe encore, Joe. Ça existe encore. On est à la veille, là, justement, de savoir la programmation 2020.
pour les Français, Ciné-Cadeau, c'est les dessins animés qui ressortent une programmation spéciale sur 2-3 semaines à l'hiver, pendant les vacances. Et puis, c'est toujours les mêmes dessins animés qui passent depuis 30 ans.
Ouais, les 12 travaux d'Astérix.
Disons qu'ils ont acheté il y a 30 ans, ils ont bien amorti les droits de diffusion. Oui,
définitivement. Mais là, tout ça te mène vers quelque chose qui s'appelle les Escape Game Awards. Puis vous avez gagné des prix. Conte-nous ça un peu. C'est un vote du public. C'est quelque chose qui récompensait les meilleurs Escape Games partout en Europe. Là.
En France,
ouais.
France,
OK.
Mais ça correspond quand même à pas mal de salles. Les Escape Game Awards, c'est une compétition qui a commencé en 2017 et du moins elle a commencé avant, mais en 2017 ça s'est ouvert en province parce qu'avant c'était limité que à Paris. Et depuis, comme le marché a explosé partout en France et qu'il y a des salles un peu partout, ils se sont dit que ce serait pertinent de le faire par région. Nous, pour la région Bretagne, il doit avoir à peu près 80 salles d'escape game dans une quarantaine d'enceintes, on va dire.
Ah ouais, ok, wow, c'est quand même.
Mes chiffres sont pas très précis, mais...
Mais c'est quand même beaucoup, tu sais, c'est pas juste... La concurrence ne vient pas juste d'une couple de salles ici et là, là je veux dire, il y en a quand même pas mal. Là. Je serais curieux de voir, par exemple, au Québec, combien qu'il y en a au total. D'après moi, on top pas ça. Là.
C'est probable qu'il y en ait... Il y en a peut-être moins au Québec que sur la Bretagne, mais finalement, il y a aussi une question de densité de population aussi, puis Mais bon, quoique la Bretagne n'est pas très populeuse, mais elle est très populaire en revanche. non, il y a beaucoup de gens qui aiment bien venir ici. Le climat est doux. Bon, là, il pleut, mais le climat est.
Tu veux pas voir le paysage que je vois par la fenêtre.
Mais là, il fait noir hein, chez nous maintenant, mais toi, tu as de la neige, j'imagine.
Ouais, on a eu ça, au moins 5 cm de neige.
On parle de la neige.
Ouais, non. Mais ouais, fait que vous avez gagné des prix, là. Escape Game Awards. Ouais. Il y avait des catégories différentes, j'imagine, pas juste.
Ouais, alors c'était par région. Et donc, quand ça a été ouvert en région, en Bretagne, en 2017, moi, je suis une bête de concours. J'aime ça. J'aime ça jouer pour gagner. Et en 2017, on avait. J'étais tout seul. J'avais pas beaucoup de clients qui étaient encore venus chez nous. Mais par contre, j'avais développé une bonne. On l'entretient encore aujourd'hui. Les clients nous aiment. Les joueurs nous aiment vraiment beaucoup. Maintenant, au début, ils m'aimaient sans doute moi et mes jeux. Mais maintenant, ils aiment mon équipe et tout ce qu'on développe comme énergie autour de ça. Et on avait un soutien du public assez fort. Ce qui fait qu'en 2007, on avait réussi. En 2017, on avait réussi à finir deuxième alors que ça faisait que quelques mois qu'on était ouvert. Et depuis, j'étais resté à me dire la prochaine fois deuxième, c'est pas assez, il faut qu'on soit premier. L'édition avait pas eu lieu en 2018 pour une raison de calendrier, et en 2019, donc déjà l'année dernière, avec l'arrivée de Mysterio Clock Liberté, donc la deuxième adresse, j'avais tapé très fort en mettant un gros budget dans la première salle de cette adresse, en me disant on passe de quelque chose d'un peu artisanal que je faisais tout seul. Là, j'engage un décorateur professionnel qui est menuisier depuis 20 ans. On va faire un décor. On va aller au pays. C'était la salle Alice. Et puis, Alice au Pays des Merveilles, ça évoque tellement de choses dans un univers coloré, onirique, que tu peux pas juste faire semblant. Il faut y aller avant.
Mmh. Ouais.
On est passé d'un budget. Avant, mon budget, c'était 2000 euros par salle quand je l'ai créé. Et là, sur la salle Alice, j'ai dépensé 15 000 euros dans la salle.
Okay.
Pour arriver. Mmh, mais la différence, elle se voit. Et elle se joue et elle se plaît et enfin tout ça. Et cette année-là, on a fait un sans faute. Il y avait 3 prix à gagner en Bretagne. On a gagné le meilleur scénario pour la salle Alice, le meilleur décor pour la salle Alice et le prix dont je suis le plus fier, Mysterio Clock avait été élu meilleur enseigne d'escape game en Bretagne.
Ah ouais, cool.
En 2019 et cette année, ça revenait encore. Bon, ça a pris un petit décalage aussi avec le COVID-19. Mmh. Donc cette année aux Escape Game Awards 2020. Mysterio Clock a gagné encore le meilleur décor pour la salle Alice. Alors je suis content, mais depuis on a ouvert 5 autres salles qui sont tout aussi jolies. Donc j'espérais que les gens viennent, mais ça a fait un effet, boule de neige parce que comme la salle Alice a eu des prix, les gens sont venus jouer dessus. Les gens l'ont trouvé belle et puis c'est pas un escape game, c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement toutes les semaines non plus. Donc les joueurs ils sont captés, ils reviendront. Mais tu vois, il se trouve que la salle Alice a été beaucoup plus jouée, donc de ce fait, elle a eu beaucoup plus de votes, encore une fois. Donc, meilleur décor encore cette année en 2020 et encore meilleure enseigne. Et meilleure enseigne, c'est pas que mon travail, c'est la variété des salles que tu soulignais, mais c'est aussi la qualité des maîtres de jeu, tout ça, la qualité de l'accueil, l'empathie des employés qui travaillent, leur sympathie, enfin tout ça.
Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en 2020, par exemple, comme gestionnaire de lieux de divertissement? Oui, il y a la COVID, mais disons qu'on met ça de côté. En 2020, comment que c'est de devoir attirer des gens sur un divertissement plus que, par exemple, une partie de foot en France, mettons?
Franchement, la vie avant le COVID-19, la vie était plutôt simple et légère. On récolte le fruit de notre travail des 4 dernières années. La popularité y est. Les gens viennent. On avait des listes d'attente. Souvent, pour venir jouer une fin de semaine chez nous, il fallait s'y prendre au moins 3 semaines à l'avance. avant le confinement, tu vois, avant que tout s'arrête en mars. Quand on a repris un peu entre les deux, on arrivait à remplir quand même presque au complet, mais forcément, il n'y avait plus d'attente. Mais non, il n'y a rien de vraiment dur, je trouve, parce que c'est un métier qui me plaît, je suis content de le faire, je suis bien entouré. J'ai envie de me développer encore. J'ai déjà des salles vides qui attendent ça. Je trouve que ouais, c'est une bonne structure. Il y a pas de difficulté particulière.
Est-ce que ouvrir un jeu d'évasion au Québec, c'est quelque chose qui te tenterait?
Éventuellement, ça pourrait me tenter. J'y ai joué un peu quand je vais en bas. J'essaie d'entrer au Bercail une fois tous les ans. C'est un peu plus compliqué depuis les 4 dernières années, mais la moyenne, ça reste à peu près ça. Et donc, à chaque fois, j'essaie d'en caler quelques-uns avec mon frère, notamment. Le concept est un... J'aime moins la manière que le concept est abordé au Québec, mais ça pourrait être intéressant.
Après, justement, apporter ta propre saveur, apporter ta propre saveur à tu sais, par exemple, un nouvel établissement avec le concept que toi t'as développé, les histoires que t'as développées, mais l'amener au Québec, l'ajuster un peu, peut-être que ça pourrait fonctionner.
Ah bah, c'est sûr que une des grosses parties du travail, c'est la conception mm-hmm. des jeux et l'écriture des scénarios. Puis maintenant que ça c'est fait, on se retrouve avec un catalogue. J'étais pas parti pour ça à la base, mais maintenant j'ai un catalogue de... Ben, j'ai 8 jeux différents parce que je te parlais de 10 salles, mais j'ai des salles qui sont en double pour accueillir des groupes qui veulent jouer en compétition, par exemple. Mm-hmm. Donc, j'ai un catalogue de 8 jeux différents plus les créations à venir. Ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Donc, c'est sûrement que ça peut se déployer, ça pourrait se déployer ailleurs, sans doute, et au Québec aussi, avec un peu d'adaptation, certainement. Mais je développe ici encore un peu avant.
Ah, c'est cool. Ah, j'aime ça entendre parler de ton histoire parce que c'est vraiment un success story, tu sais. Te connaissant un peu le côté créatif qui fait partie de ta vie puis tout ça, tu dois vraiment, tu sais, te promener dans ta business ou dans ta bâtisse puis vraiment être fier, tu sais, de voir les gens s'amuser parce que je pense que te connaissant un peu, c'est quelque chose aussi qui doit te rendre super fier, là, tu sais, de juste voir les gens rentrer puis autre que la réussite monétaire, financière, whatever, juste de voir les gens essayer de se creuser la tête parce que toi, Jonathan Corrigan, t'as mis des obstacles ou des trucs dans leur patte. Je suis sûr que t'es fier de ça.
Oui, c'est très stimulant, en effet.
Ouais, c'est cool. Hey, merci c'est d'avoir jasé. Merci de nous avoir jasé, Joe. C'est vraiment cool. C'est la première fois que je recevais un invité outre-mer sur l'heure du lunch au Québec, puis sur l'heure de l'apéro en France. Mais merci d'avoir pris le temps de nous jaser. C'est vraiment cool. Ceux qui veulent, par exemple, aller consulter un petit peu les salles dont on a parlé, puis s'il y a des gens qui sont en, par exemple, des gens du Québec qui sont en voyage dans ce coin-là de la France dans les prochains mois, tout ça, suite à la réouverture, ou les gens de la France qui nous écoutent, qui voudraient connaître ton spot, parle-nous un peu de ton site Internet, puis comment on peut te contacter.
Alors, on peut venir voir le site Internet sur www.mystery-o'clock.fr. Là-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la présentation de toutes les salles, il y a une petite vidéo, il y a les comparaisons, parce que comme il y a beaucoup de choix, ben, forcément, les gens n'ont pas tous les mêmes aptitudes. Donc, j'ai fait un tableau avec des skills. Est-ce que tu es bon en observation? Est-ce que tu es bon en manipulation? Est-ce que toi, c'est l'investigation qui te plaît? Enfin, il y a de quoi choisir sa salle. Et on a une page Facebook assez active aussi. D'ailleurs, ceux qui veulent se connecter sur la page Facebook, on avait mis pour faire campagne pour les Escape Game Awards, on avait tourné 3 ou 4 vidéos.
Mm-hmm. Ouais, c'est super bien fait. Ah, c'était cool. Je les ai regardées.
J'ai payé de ma personne sur certaines d'entre elles.
Ouais, il y en a une qui passe par la fenêtre là. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour te rattraper l'autre bord?
Ouais, mais je suis tombé à côté. On avait anticipé, mais mal. Mais faut souffrir pour les gens. Il y a ça, il y a un...
Souffrir pour les votes.
J'ai pas compris.
Il faut souffrir pour les votes. C'est dans le thème de la journée des élections aux États-Unis.
Aux États-Unis, ils vont souffrir moins avant et après.
Ouais, exact. Non, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, merci Joe. Merci d'avoir participé. C'est vraiment le fun. Puis on va te suivre. Puis quand ça va réouvrir, puis tout ça. Mais tu parlais qu'on pourrait faire un espèce de un autre podcast ensemble là sur. Voyons, qu'est-ce que c'est de quoi qu'on parlait?
Les expressions.
Oui, les expressions, c'est ça. Hein, on se reparlera de ça en privé, puis on le fera. Ça pourrait être vraiment drôle.
Moi, je pense. Hein, juste avec le... Ne serait-ce qu'avec les menus du McDonald's, il y a de quoi faire.
On peut faire un spécial juste sur le menu du McDo. On en a pour une heure quasiment. Hey, merci, Joe, d'avoir été là. Puis ben, bon succès. Puis j'espère que vous ne serez pas confinés trop longtemps puis que tu vas pouvoir recommencer à divertir les gens.
Ouais, ben, bon succès en zone neutre, que ce soit le midi ou le soir.
Hey, merci, mon vieux. J'ai hâte de te reparler. J'ai hâte que tu viennes faire un tour puis qu'on puisse se voir en vrai.
Moi aussi.
Salut, vieux. Bye-bye.
Salut.
Jonathan Corrigan, donc qui est un ami d'enfance, qui a sa propre business d'escape game en France, dans le coin de Brest. Donc, tous les détails, là, je vais mettre ça dans les commentaires. Ceux qui voyagent un peu, ceux qui trippent escape game, jeux d'évasion, tout ça, allez-y. Puis je vais mettre les détails si ça vous intéresse. Donc, merci pour ceux qui ont été là sur l'heure du midi. On se revoit ce soir en zone neutre, format officiel ou régulier, mettons. On reçoit ce soir, je reçois à 19h30, Annie Pelletier, médaillée olympique en 1996 aux Jeux olympiques d'Atlanta. Donc, je vais la recevoir ce soir à compter 19h30, 19h35. Ensuite de ça, je reçois aussi le Diable à 5, groupe de musique folklorique québécois qui va être avec moi. On va jaser un peu d'un prix qu'ils ont gagné au Gala de la Disque la semaine dernière. Donc, ça risque d'être super intéressant. Et puis, certains humoristes qui ont participé au prochain stand-up sur les ondes de nouveau à la télévision. Et aussi Vincent Ouellet des Trois Maisons, auteur d'un livre qu'on va jaser ce soir. Donc, bien hâte de vous revoir ce soir. D'ici là, ben portez-vous bien. À ce soir. Ciao, ciao! We'll be right back.